Prions, Seigneur. Oui, Père Céleste, nous voulons te louer ce matin que cette parole que nous venons de lire est vraiment précieuse. Et nous savons que chaque fois que nous la lisons ou nous l'écoutons, alors tu as quelque chose à nous dire. Et je te prie ce matin que tu nous parles par ton esprit, que nous soyons prêts à recevoir ce que tu as à nous donner. Je te prie ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, vous savez, Jésus priait souvent. Pouvez-vous imaginer ses prières, sa louange, ses remerciements, sa foi, son émotion, sa compassion, son intensité? Alors, lorsqu'il avait terminé sa prière, un de ses disciples lui a dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean, c'est Jean le prophète, l'a enseigné à ses disciples. » Moi, je suis frappé par cette phrase au sujet de Jean, parce que nous pensons à lui comme un prophète. Mais les disciples ont voulu savoir comment prier comme Jean a prié. Alors, ils n'ont pas demandé comment pouvons-nous prêcher, comment pouvons-nous faire de grands miracles, des signes, des grandes œuvres, mais ils ont voulu savoir prier. Alors, en réponse à cette prière, Jésus-Christ leur a donné à ses disciples une prière modèle comme notre Père qui est au ciel. Mais il n'est pas arrêté là parce qu'il a donné à travers d'une parabole encore de l'instruction sur la prière, c'est-à-dire que sur le sujet de la persévérance. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez bien noté dans la parabole, mais il y a trois personnes. Il y a trois hommes qui sont mentionnés. Un croyant, c'est-à-dire que je vais peindre un tableau ce matin pour vous, et je vois en premier temps, il y a trois personnes distinctes. Alors, le premier homme qui reçoit un ami chez lui dans un voyage, alors je vais le voir comme un croyant. Il a goûté le pain de vie. Il connaît le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ses péchés ont été pardonnés. Il est sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a un deuxième homme qui est mentionné dans la parabole. C'est le monsieur qui arrive d'un voyage. Il est peut-être fatigué. Il a faim. Il n'a pas goûté le pain de vie, le Seigneur Jésus-Christ, et il n'est pas sauvé. Il est perdu. Il est sur le chemin qui mène à la perdition. L'enfer. Alors, le troisième homme, je vais le symboliser comme Dieu. Alors, jusqu'à un certain point, parce qu'on va voir que Dieu n'est jamais dérangé. Il n'est jamais impatient. Il est prêt à toujours, nous aider dans nos circonstances de la vie. Alors, le troisième homme, il représente Dieu dans ce que je vous dis ce matin. Et je vois dans le tableau ces trois hommes. Et le premier homme, alors on voit qu'il est un homme qui est hospitalier. Il est aussi humble d'esprit. C'est-à-dire qu'il est aussi persistant. Ça, c'est les trois caractéristiques qui sont mentionnées, que je vais mentionner ce matin. Vous savez, l'hospitalité à cette époque était un devoir sacré. C'était vraiment quelque chose d'important. Alors, cet homme, il voyait la situation comme étant urgent. Il voyait la nécessité d'agir vite. C'est-à-dire, au milieu de la nuit, il est sorti chercher du pain, trois pains, le texte dit. Et vous savez, même pour les hommes, c'était dangereux de sortir au milieu de la nuit. Cependant, il était prêt à changer ses habitudes. Il était prêt à laisser le réconfort de sa maison afin de pouvoir aux besoins de son ami, qui termine un voyage, qui devrait être fatigué et avoir faim. Voyons-nous la situation spirituelle comme étant urgente aujourd'hui? Ceux qui meurent chaque jour sans Jésus-Christ, il y a des problèmes de suicide, d'avortement, de drogue. Hier, nous avons entendu parler d'un tremblement de terre en Chine. J'oublie les chiffres exacts des personnes qui ont été tuées, mais plus que 11 000, je crois, sont perdus ou leurs maisons ont été détruites. Dernièrement, à Boston, tout le monde parle cette semaine de Boston. Alors, voyons-nous la situation comme étant urgente aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devons pourvoir aux besoins spirituels des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que l'hospitalité, c'est un bon moyen de rétablir les relations les uns avec les autres. N'oubliez pas l'exhortation dans Romains chapitre 12 au verset 3 qui dit « Exercez l'hospitalité ». Il y a une deuxième caractéristique de cet homme, c'est quelque chose qui me frappe lorsque je lis la phrase « Je n'ai rien à lui offrir ». Alors, il est là et son ami devrait arriver et il est allé chercher du pain chez son ami qui a du pain à la maison. Et il a dit « Je n'ai rien à offrir ». Je crois qu'il était honnête. Il était sincère, il était franc, il était transparent. Je crois qu'il a dû admettre qu'il n'était pas prêt à recevoir son ami de voyage. En fin de compte, il n'a pas besoin de planifier. Et je crois qu'il avait confessé son manquement. Alors, dans ce tableau, on voit que cet homme, il a dit tout cela. Et je crois qu'il y a un principe biblique à saisir. Lorsque nous lisons cette phrase m'a beaucoup marqué à travers de mon ministère et chaque fois que je vais devant les croyants et tout cela. Alors je me suis dit, je n'ai rien à offrir. Et c'est un principe biblique que nous devons tous saisir ce matin. Nous n'avons rien à offrir aux autres. Nos talents, nos dons, nos capacités viennent de Dieu. 2 Corinthiens 3, au verset 5, dit, « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et Jean 15, au verset 5, que nous avons entendu répéter ici à plusieurs semaines, hein, depuis quelques semaines au moins, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une vérité à reconnaître ce matin. Si vous êtes moniteur, monitrice dans l'école du dimanche, si vous êtes ancienne, responsable dans l'église, vous êtes professeur comme le docteur Marc qui est là parmi nous ce matin ou comme Jean-Paul qui est voyagé en Amérique du Sud. Alors, on doit tous reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. C'est lui qui nous équipe, qui nous donne la capacité de faire quelque chose. Il y a une troisième caractéristique, et vous l'avez sans doute saisi tout cela, parce que cet homme, il est allé à la porte de son ami pour chercher du pain. Il avait sans doute crié dans une voix haute. Il a dû demander, « Mais mon ami, je n'ai rien à offrir à mon ami qui arrive du voyage. » Alors, il était là devant la porte. Peut-être a-t-il partagé avec cet homme que cela sera une honte si je ne pourvois pas à mon ami, parce que c'était un devoir sacré à cette époque-là. Et même pour le monsieur qui était dans la maison, il a peut-être réfléchi un petit peu. Il a dit que si je n'offre pas non plus des pains, alors cela sera une honte pour moi. Et cela peut faire une honte pour tout le village, parce que c'était quelque chose qu'on faisait à cette époque-là. Bien sûr, cet homme, à l'intérieur de sa maison, alors il était fatigué, lui et ses enfants, le texte dit, ont été au lit, il n'a pas voulu être dérangé. J'ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas comme cela. Alors, il est prêt à intervenir dans nos vies. Il est prêt à répondre à nos besoins. Et on voit enfin quand que cet homme, il se levait et cherchait du pain. Il est allé dans la cuisine et il a cherché le pain qui était fait peut-être ce matin-là. Et il a dit que si je ne le fais pas, alors je n'aurai pas de sommeil ce soir. Comme j'ai dit, Dieu n'est pas comme cela. Mais vous voyez que l'amitié ne suffit pas, mais à cause de son importunité, à cause de sa persistance, il était d'accord d'aller chercher le pain. Nous y voyons que si la persistance a eu de bons résultats, alors pour celui qui cherchait du pain, alors combien plus la persistance aide celui qui prie souvent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous désappointe jamais. Il est prêt à nous aider et il va chercher du pain. J'ai voulu dire tout à l'heure que le monsieur qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, il était au milieu de ces deux hommes. Et peut-être pouvons-nous dire que mon côté ici à gauche représente ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et à mon côté droit avec Hector et tout le monde qui est là, ce sont les croyants qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Alors vous savez que le croyant, il reste entre les non-convertis et Dieu qui est représenté par les croyants. Et il avait reçu un mandat. Je crois que je l'ai entendu parler même la semaine passée à travers d'un message ici. Et c'est-à-dire que il a reçu le message « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors vous savez que le verbe « aller » est très important ici. Cela signifie « étant déjà parti ». Dieu s'attend à ce que nous soyons déjà partis. Chercher le monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et le faire des disciples. Alors, pourquoi faut-il aller? Alors, parce que la Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ doit entendre la parole de Dieu. Alors, écoutez un passage dans Romains 10, au verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Qui, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, à Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut croire. Pour pouvoir croire, il faut entendre parler de Jésus-Christ. Pour pouvoir entendre parler, il faut prêcher. Les perdus, les non-convertis ne peuvent pas être sauvés jusqu'à ce qu'ils entendent la parole précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ils doivent entendre l'Évangile pour pouvoir recevoir la foi et la conviction de leur péché. C'est pourquoi les missionnaires sont envoyés. C'est pourquoi un jour, notre Église aux États-Unis m'a envoyé peut-être tout d'abord en France et ensuite ici au Québec. Et je voudrais vous donner un témoignage personnel, c'est pour attirer la gloire sur notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela vient à mon esprit. Lorsque j'étais à Rimouski, je faisais une étude de suite avec une femme sur le sujet de l'assurance du salut. Sa sœur de Montréal est venue voir sa sœur et elle assistait un jour. Et je n'ai jamais posé des questions à cette femme de Montréal. Je n'ai même pas la frappé, connaisse tout le Seigneur Jésus, quelque chose comme cela. Mais elle m'avait écouté. Et bien sûr, à travers de mon étude, j'ai présenté le chemin qui mène à la vie éternelle. Et vous savez que cette femme, elle est retournée à Montréal. Elle s'est convertie à Jésus-Christ, son mari et ses enfants. Et peut-être une quinzaine plus tard, je n'ai jamais rencontré le couple. Alors cet homme, il est venu à l'hôpital lorsque j'étais à Laval après mon pontage à Saint-Luc, ici à Montréal. Je suis allé chez Élisabeth et Jean pour être rétabli. Alors, j'avais dû être opéré deux fois de plus parce que j'avais une grosse infection. Et cet homme est venu comme un ange devant moi, le monsieur de Montréal. Comment? Tu connais l'histoire? Tu étais à Belvedere, Marie-André, à cette époque-là? Non. Ah bon? Ok, mais Alain Gervais, alors, il est venu devant moi et il a dit, Richard, merci d'être venu au Québec. Et moi, je me suis dit, c'est qui cet homme et pourquoi il dit ça? Je ne savais rien de tout. Et il vient d'expliquer cette histoire que sa femme est venue à Rimouski pour rendre visite chez sa sœur, Madame Bonville. Et elle s'est convertie. Alors, encore peut-être un autre petit témoignage. Alors, j'étais dans l'État de Michigan. Je vois Cheryl, hein? Elle vient de Michigan. Alors, je faisais un stage là pendant une année, pendant l'année que M. Kennedy était assassiné. Et moi, j'ai dirigé un groupe de jeunes dans une maison de repos tous les trois dimanches, quelque chose comme cela. Et j'ai fait la connaissance d'une femme aveugle. Et chaque fois que je me suis approché d'elle, elle a dit, Richard, je sais que c'est toi. Et j'ai dit, comment tu le sais? Tu ne peux pas me voir. Je ne dis rien de tout. Mais elle a dit que j'ai entendu tes pieds. Et comme le texte dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Et cela m'a beaucoup touché. Cela m'a beaucoup frappé. Alors j'avais vraiment les bénédictions là. Alors, j'avance un petit peu, mais cette sorte de persistance où il criait à la porte, il a demandé du pain, se résume en trois verbes. Et les trois verbes demander, chercher et frapper sont vraiment importants. Alors, dans le langage original, cela signifie continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. Et je crois, en bref, cela veut dire, comme nous voyons dans Jean 15, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut garder la communion constante avec Dieu. Et je me repose dans sa présence. Bien sûr, c'est possible qu'on n'obtienne pas tout de suite la réponse. Je peux vous dire ce matin, à 4 heures ce matin, je me lève tôt et j'ai dit à Alice, elle a dit, tu regardes toujours à ton message hier soir. J'ai dit oui, je n'ai pas une conclusion. Et à 4 heures ce matin, le Seigneur m'a donné la réponse pour ma conclusion et l'application de ce message que je vais vous donner. Mais j'ai continué à chercher Dieu et sa face pour savoir comment puis-je conclure le message que je donne ce matin. Mais ensuite, lorsqu'on cherche, lorsqu'on frappe, lorsqu'on demande, d'après les versets qui s'en suivent, alors on voit les promesses, les bénédictions. Alors, elles sont illustrées dans les versets 9 à 3. À Père Thérèse, alors, c'est ce qui est la meilleure chose pour son enfant. Et il est certain que notre Père Céleste, il sait, il comprend ce qui est meilleur pour nous. Il ne nous désappointe jamais. Par exemple, un Père Céleste donne à son fils une pierre lorsqu'il demande du pain. Est-ce qu'il lui donne un serpent lorsqu'il demande un poisson? Est-ce qu'un Père Céleste donne un scorpion au lieu d'un œuf? Non, il ne le fait pas. Et Dieu non plus. Alors, je vois que j'ai beaucoup de temps qui reste. Le pasteur n'est pas là. Il a dit que Richard, tu peux prêcher. Mais je ne dis pas combien de temps. Mais je dois lire quelque chose. Je n'ai pas peut-être tout à fait saisi moi-même, compris exactement ce que je vais vous dire. Mais je dois lire quelque chose au sujet de la persistance. Et j'espère que je le dis bien en français. Alors, vous devez m'excuser parce que je viens du Sud, n'est-ce pas? Alors, oui, grâce à Dieu. Alors, persistance dans la prière n'est pas un essai de changer la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, et même pour la guérison, et moi je viens aussi de l'Église de l'Alliance des États-Unis, et on prie souvent pour la guérison de ceux qui sont malades, mais souvent je n'entends jamais que ta volonté soit faite. Alors, lorsqu'on persiste dans la prière, lorsqu'on cherche et on frappe et on demande, alors ce n'est pas un essai pour que Dieu change sa volonté, mais c'est pour nous aider dans notre croissance spirituelle à arriver à cette place où Dieu peut avoir confiance en nous et il donne la réponse et il a cette confiance qu'il peut se confier en nous lorsqu'il nous donne une réponse. Et voici ma conclusion fameuse ce matin. Alors, quel est votre besoin ce matin? Je ne vous connais pas tous. Alors, vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes peut-être comme le 12e homme, représenté sur mon côté gauche par les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes peut-être fatigué et chargé, comme nous lisons dans Matthieu 11, au verset 28, et le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je crois que dans le texte, le repos ici, c'est le repos que nous avons avec Dieu lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans un sens que la guerre entre un homme perdu et un Dieu saint est terminée et il a la paix avec Dieu, comme on voit dans Romains chapitre 5. Alors, cela veut dire que si vous avez besoin de Jésus-Christ et pour pouvoir être sauvé, il faut invoquer le nom de Jésus et il vous donnera le repos en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être comme ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, représenté sur le côté droit de l'Église. C'est comme le premier homme qui avait besoin du pain. Alors, il est allé chercher le besoin de quelqu'un qui avait des ressources pour l'aider, pour lui donner le pain. Et nous pouvons aller ce matin, si nous avons un besoin, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il donne la promesse qu'il vous donne le repos. Et dans Matthieu 11, au verset 28 et 29, il dit dans la deuxième phrase, « prenez mon joug sur vous. Alors, c'est une expérience plus profonde. Il s'agit d'un croyant qui connaît le Seigneur Jésus-Christ et il a des besoins dans sa vie. Je ne sais pas votre besoin. Si vous avez besoin de quelque chose de matériel, quelque chose de spirituel, mais Dieu vous invite ce matin à chercher la face de Dieu et il voudrait vous bénir, il voudrait vous aider, il voudrait répondre à vos besoins. Soit que vous n'êtes pas converti à Jésus-Christ ou soit que vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ et quand même vous avez besoin, prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, nous te prions ce matin en te remerciant pour tous tes bienfaits envers nous. Vraiment, Seigneur Jésus, c'est une grande joie de pouvoir venir à toi pour chercher le pain dont nous avons besoin dans la vie quotidienne, pour chercher ton aide, pour chercher ta face, pour pouvoir exercer le ministère que tu nous as accordé à accomplir. Et je te prie que tu nous bénisses. Et il y a peut-être ceux qui cherchent ton visage ce matin avec le groupe qui est là, avec Michel ce matin. Et je te prie que tu répondes à leurs besoins. Et dirige-nous comme une église qui cherche ta face, qui trouve la satisfaction spirituelle en toi. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.